au quotidien avec Clotilde Seil.
Bonjour mes amis, nous sommes aujourd'hui le jeudi 18 septembre 2014 et je viens vous faire la lecture des journaux sur Canal M jusqu'à midi. Parmi les noms et les mots qui reviendront beaucoup dans les papiers des journalistes, éditorialistes et chroniqueurs, les conservatoires en région, austérité, austérisé, natalité, Fred Pellerin, Gaëtan Barrette, bien sûr, les urgences, le pont Champlain, le PQ, un appel au calme, Couillard, ça on n'est pas surpris, Parisot, oh, on n'est pas vraiment surpris non plus, aéroport de Sherbrooke, on ira en Écosse bien sûr, un papier sur l'Obamacare, toucher ou pas les animaux dans les eaux, on parlera de poules, non, les vraies poules, voilà, dans le domaine culturel de vol 920, on reviendra peut-être sur les conservatoires, sur le pianiste Alexandre Tarot, Charles Aznavour, et puis on finira en sport où on parlera du Canadien de Montréal. Et on commence ce matin avec le Soleil. Deux gros titres à la une du Soleil, deux gros titres sur lesquels je vais m'arrêter tout de suite. D'abord celui-ci, peut-être parce que c'est celui qui m'a fait personnellement frissonner le plus. Fermeture prochaine de 5 conservatoires. Les établissements de Rimouski, Saguenay, Trois-Rivières, Gatineau et Val-d'Or du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec fermeront les portes de leur école le 30 juin prochain, prévoit un document obtenu par Le Soleil. Le plan estampillé confidentiel a été produit par la direction du Conservatoire. Il sera remis à la ministre de la Culture et des Communications, Hélène David, sous peu. En juin, Mme David avait demandé qu'on lui soumette un plan de retour à l'équilibre budgétaire au plus tard le 30 septembre. L'enseignement dispensé dans les établissements des 5 municipalités mentionnées disparaîtra pour être confié aux écoles privées de musique sur tout le territoire québécois ou aux écoles du réseau scolaire pour les niveaux primaires et secondaires, peut-on lire dans le document. Le rôle du conservatoire sera d'encadrer la formation donnée par ces écoles, peut-on lire dans le dossier. La solution préserve les valeurs essentielles du conservatoire, écrit son directeur général Nicolas Desjardins. Elle respecte sa mission et assure son avenir. Le document fait néanmoins état des inconvénients du projet. Il rappelle que les professeurs et les employés du conservatoire ont tissé des liens étroits et importants avec la majorité des acteurs culturels des régions concernées. Il relève que près de 350 élèves sont actuellement inscrits dans les établissements menacés. Ils vivront ces fermetures comme une perte significative. Un manque à gagner de près de 2 millions de dollars est prévu cette année dans le réseau, ce qui portera son déficit cumulé à plus de 14 millions, indique le document. Les mesures proposées permettraient d'économiser 3 millions par année. Au Salon Bleu hier, la ministre de la Culture, Hélène David, a qualifié de « rumeur » les craintes de fermeture au Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec, mais elle s'est abstenue de les démentir. Le déficit cumulé nécessite un redressement important, a expliqué la ministre David. Nous regardons toutes les possibilités. Ça ne veut pas dire qu'on va fermer des pôles. Ça peut vouloir dire qu'on va regarder la situation, le nombre d'étudiants, comment travailler avec les différentes offres musicales en région. Le député de Rimouski, Harold Lebel, a promis une bataille en règle si le scénario de fermeture venait à se concrétiser dans son coin de pays. Il s'insurge à l'idée que l'on puisse même envisager de fermer le cœur culturel de Rimouski et de la région. « C'est à la ministre d'arrêter les rumeurs », a-t-il lancé en chambre. « C'est à elle de se lever, puis d'arrêter toutes ces rumeurs-là. Je vous le dis, pour la population de Rimouski, tout le monde est mobilisé. On ne se laissera pas faire. » Sur le sujet, je vous lirai un peu plus tard, en début de deuxième heure, une lettre que Yannick Nézet-Séguin a fait parvenir à tous les journaux quand il a appris cette nouvelle-là. Tous les journaux diffusent cette lettre-là pour dire à notre ministre Hélène David « S'il vous plaît, madame, ne fermez surtout pas les conservatoires, ce serait dramatique pour la culture québécoise. » À l'initiative de Martin Dupuis, qui est mon bras droit musical ce matin, tous les instrus que vous entendrez ce matin à l'émission sont interprétés par des élèves du Conservatoire de musique de Québec. Hein, c'est bien ça, ce sont bien les gens de Québec. Alors, vous les entendrez tout au long de cette première heure, au moins. À la une aussi du Soleil, victoire d'un carré rouge, les droits d'André Bérubé ont été bafoués. Le juge invite la police à revoir ses méthodes. Et François Bourque en parle dans sa chronique qui s'intitule « Le dur à cuire des manifs ». Ce soir du printemps 2012, la police a utilisé des moyens démesurés pour réprimer une manifestation pacifique sur la colline parlementaire. Une arrestation massive, 84 personnes. Les menottes, les tie-wraps, des parades d'identification, une évacuation en autobus et une détention de plusieurs heures. Le juge Daniel Lavoie de la Cour du Québec vient de condamner la ville de Québec à verser 4 000 $ à un des leaders de cette manifestation, dont la liberté d'expression a été brimée de façon disproportionnée. André Bérubé n'était pas étudiant au printemps 2012, mais en était solidaire. Rompu au sport extrême, il gagne sa vie en vendant des équipements de paintball. Il se décrit comme un dur à cuire des manifestations et un autodidacte du droit. Il s'est découvert un intérêt pour la justice en écoutant la Cour en direct et People's Court. Il connaît ses droits et les limites de ceux des autres, sait mesurer ses actions. S'il a gagné sur la liberté d'expression, M. Bérubé a eu moins de chance lorsqu'il a voulu convaincre le juge qu'il avait été blessé par des matraques et traumatisé par son arrestation de mai 2012. Pour un leader de manif, les matraques font partie du risque du métier et la force de la police est un stress négligeable, aperçut le juge. Sur une vidéo tournée juste après la prétendue altercation, M. Bérubé apparaît d'ailleurs avec un sourire au visage. La victime reconnaît s'être essayée. Jamais il n'a eu peur ce soir-là. Une condamnation à des dommages de 4 000 $ n'a pas en soi une grande force dissuasive, sauf que le jour où les personnes lésées dans leur droit de manifester déposeront des recours collectifs, la facture risque d'être pas mal plus lourde. Vous pouvez compter ici sur les André Bérubé de toutes les manifs pour répandre désormais le message. À la une du quotidien, ce matin, la manifestation projetée des postiers inquiète les voisins du ministre Lebel. Pas dans ma rue, en effet, ces postiers-là voulaient défiler devant la maison du ministre Lebel. Et c'est ce qui est inacceptable, selon l'éthicien Alain Ross. À la une aussi, nous allons en parler, une photo de Fred Pellerin. Plus loin que l'imaginaire, les gens de Chicoutimi sont eux aussi et à leur tour tombés sous le charme de l'artiste. Jean-Philippe Descaries signe une chronique ce matin. D'ailleurs, c'est un peu sa fille qui l'a poussé à ça. Il raconte « Il y a des sujets qui s'imposent d'eux-mêmes par la seule mais implacable réalité de la vie. Mardi après-midi, ma fille aînée m'a joint pour m'interpeller d'un ton sans appel. Tu ne vas pas laisser passer ça. Le gouvernement veut ramener de 12 à 9 mois la durée des congés parentaux alors qu'il s'agit d'un programme qui ne lui coûte rien. C'est scandaleux. C'est quand ta prochaine chronique dans la presse ? » Eh bien, c'est aujourd'hui puisque cette chronique est paru et dans le quotidien et dans la presse, dans le cahier des affaires de ce matin 18 septembre. Après vérification, écrit Jean-Philippe Descaries, j'ai compris que ma fille, tout juste la trentaine et mère d'une toute jeune fille, réagissait au contenu de l'un des nombreux ballons politiques lancés à Québec. Comme des dizaines de milliers de jeunes québécoises, mes deux filles aînées souhaitent prochainement élargir leur noyau familial. Elles prévoyaient bien sûr profiter des mêmes conditions qui prévalaient à la naissance de leur premier bébé, soit d'un congé parental de 12 mois, prolongé de plusieurs semaines de vacances et de congés accumulés, afin de participer le plus longtemps possible à cette période de grâce où un nouvel être humain totalement dépendant découvre la vie. En voulant économiser 30 millions de dollars dans les poches de ces fonctionnaires qui décident de sacrifier une partie de leur vie active pour n'assurer que très partiellement la régénérescence démographique de leur État, Québec serait prêt à mettre en péril les projets d'avenir de dizaines de milliers de ménages qui contribuent eux-mêmes ainsi que leur employeur au financement de ce programme. Depuis la mise en place du régime de congé parental, le taux de natalité a réalisé un modeste mais apprécié gain pour passer de 1,5 à 1,6 %. La façon la plus simple et la plus rapide de réduire la surreprésentation démographique future des retraités et les énormes problèmes financiers que ce vieillissement extrême de la population québécoise va générer, c'est justement de favoriser par tous les moyens possibles une plus grande natalité au Québec. Le gouvernement, me semble-t-il, écrit toujours Jean-Philippe Descaries pour conclure, en a déjà plein les bras à trouver les moyens de réduire ses programmes de dépenses. Qu'il laisse donc en paix ceux qu'il n'a pas à financer. Surtout quand un programme comme le régime de congés parentaux est utile, apprécié et nécessaire pour assurer la régénérescence minimale du tissu humain québécois. Et puis, Pèlerin l'Enchanteur, ça fait aussi la une du quotidien. Ça n'a pas de bon sens. Arrêtez-le, quelqu'un, écrit Roger Blackburn. Il est à la veille de rendre les comptes fous. Fred Pèlerin était encore dans tous ses états hier soir au Théâtre Banque Nationale pour réciter son spectacle de peine et de misère devant une salle pleine de monde qui avait mal à la face à force de rire. Avec lui, l'imaginaire ne se comprend plus. Les contes de son village, Saint-Élie de Caxton, commencent au commencement et n'ont plus de fin sauf la fin du monde. Hier, le conteur a verbé toute la soirée sur le dos de Méo, le barbier du village, qui connaît les histoires de tout le monde. Le spectacle de peigne et de misère se promène depuis 2 ans sur les scènes du Québec et de la France. Fred Pèlerin, qui nous appelait le public amicalement, Check Out, hier, nous donne l'impression d'être unique et de nous dire un conte juste pour nous en croyant que ce n'était pas le même hier et que ce sera différent demain. Il a ce don de faire vivre ses histoires encore plus que simplement les raconter.
Il faut que tu saches si la vie, c'est de naître ou mourir. Lequel des remords ou des triomphes sont les plus féconds. S'il vaut mieux trouver des réponses ou poser des questions, s'il faut retenir les prénoms puis enterrer les noms, si c'est perdre son temps qu'espérer la moisson. Sache si la peur est un trésor, si la fuite est la mort. Toi qui viendras après moi, toi qui viendras après moi. Tu saches si l'amour est un ciel, une prison. Si ton sexe est une fleur, un poison, t'as pas qu'une saison. Tes yeux, si tu es des doux miroirs, des forts dans la nuit. Tes mains doivent tenir fermement ou s'ouvrir tendrement. Quel sang irrigue ton cœur si tu le tiens, celui des autres. Sache s'il faut mieux lâcher prise ou combattre en mordant. Toi qui viendra après moi, toi qui viendra après moi. Toi il faut que tu saches, car moi et les miens on n'a pas su. Il faut que tu saches s'il vaut mieux marcher en aveugle ou patient espérant l'inconnu, immobile et confiant. Courage, es-tu de près tes flancs, aux brises puis aux griffes, de se protéger, de se cacher du froid puis des attaques. Est-ce la guerre qui répare, est-ce la paix qui sépare? Sache si l'enfant y est plus petit ou bien plus grand que toi. Toi qui viendras après moi, toi qui viendras après moi. Et si tu me rejoins la nuit d'un jour, tu me diras si tu sais. Ou si comme moi, étourdi par le monde, par l'ivresse des buts, par la folie des soirs, par la chaleur de l'autre, étourdi comme moi, si tu sais toujours pas. Crois comme moi qui cherche à croire que l'important c'est de pas le savoir, mais de jamais oublier de chercher pour ceux qui viendront après toi. Pour ceux qui viendront après toi. Pour ceux qui viendront après toi.
Bien sûr que c'était Fred Pellerin que nous entendions sur les ondes de Canal M. En ce jeudi 18 septembre, à la une de la presse, exclusif, ça existe depuis 30 ans, il aurait fallu que je sache tout. Celui qui s'exprime comme ça, c'est Gérald Tremblay. La commission Charbonneau a de nouveau braqué ses projecteurs sur lui cette semaine. En entrevue à la presse, l'ex-maire a répété qu'il avait la conscience tranquille. La presse en Écosse, être ou ne pas être britannique, les Écossais se prononcent aujourd'hui sur leur avenir. Les derniers sondages donnent le non légèrement en avance, mais personne n'oserait parier sa maison sur le résultat du vote. Les Écossais devront être patients et probablement passer une nuit blanche avant de connaître les résultats, écrit Yves Boisvert. Je vous lis ça, bien sûr, dans la secondaire à l'international. Télé-réalité, célibataire futé à bord, le vol 920 décolle dimanche à TVA avec Ian England aux commandes. Ça, c'est une espèce d'occupation double, apparemment, mais avec des gens plus intelligents et qui, en plus, vont voyager. C'est ce qu'on nous annonce à peu près, en gros, là, hein, résumé. Là. Et puis, pardon, compression budgétaire à Québec. On nous annonce à la une, justement, cette chronique dont je vous ai lu de larges extraits de Jean-Philippe Descaries, chronique qui est parue aussi dans le quotidien. Et je vais vous lire maintenant quelques extraits d'une autre chronique signée cette fois-ci Patrick Lagacé, qui s'appelle « Prêt à être austérisé ». Il écrit « Le jour de la dernière élection, je me suis pris plein de tomates sur le nez parce que vous n'aviez pas aimé une chronique débat avec Yves Boisvert où j'expliquais que je n'irais pas voter. Et comme mon nez est imposant, plusieurs tomates ont fait mouche. J'expliquais que j'en avais assez du théâtre des campagnes électorales où, tout parti confondu, on dit une chose quand on veut être élu et où on fait le contraire quand on l'est. Les libéraux ont été élus le 7 avril. Philippe Couillard est devenu Premier ministre du Québec. 6 mois plus tard, nous voici en train d'entrer dans une phase d'austérité. On a des échos inquiétants en provenance de Québec sur ce qui pourrait être fendu par la hache des libéraux. Prenez le régime québécois d'assurance parentale, le RQAP, programme hyper populaire, mesure progressiste qui profite grandement aux familles et aux mères qui travaillent, pourrait être l'objet de compression. Combien de fois, se demande Patrick Lagacé, a-t-il parlé du RQAP en campagne électorale le printemps dernier? Une fois, selon mes recherches. C'était le 8 mars, journée internationale de la femme, et c'était pour vanter les mérites du régime. Pas un mot sur la nécessité d'y faire des compressions. Combien de fois, se demande encore Lagacé, le PLQ a-t-il mentionné en campagne électorale une nouvelle ronde de compression à venir dans les universités s'il était élu? Selon mes recherches, zéro. En éducation, le PLQ jurait en campagne électorale qu'il allait trouver 200 millions dans les recoins bureaucratiques du système d'éducation et refiler cette somme au service aux élèves. L'aide aux devoirs, le PLQ promettait qu'il allait étendre le service à toutes les écoles primaires et l'étendre aux écoles secondaires. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Les compressions imposées par le ministre Yves Bolduc aux commissions scolaires se traduiront par des compressions dans l'aide aux devoirs. Bon, vous voyez où je veux en venir. Vous m'avez lancé des tomates, convaincu qu'une campagne électorale est un grand exercice de démocratie qui fait pleurer les licornes sur un air de dessin animé de Disney. Vous m'avez dit que j'étais cynique. Comment vous appelez ça, vous, lancer des compressions 6 mois après une campagne à ne prononcer le mot que du bout des lèvres? Nous allons entrer dans une phase d'austérité, c'est le mot à la mode partout dans le monde. Nous allons être, mon néologisme, austérisés ces prochaines années, comme partout ailleurs en Occident. Or, combien de fois M. Couillard a-t-il mentionné le mot « austérité » en tant que chef libéral en campagne il y a 6 mois? 2 fois, pour dénoncer l'austérité péquiste. Barrette est odieux et non respectueux. Celle qui s'exprime ainsi, c'est la docteure Diane Francoeur, la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, la FMSQ, qui a fait cette sortie virulente hier matin contre le ministre de la Santé, Gaëtan Barrette, qu'elle accuse d'être odieux et non respectueux à la table de négociation et d'instrumentaliser les médecins dans un calcul politique. On la voit d'ailleurs en photo. En légende à ce papier signé Ariane Lacourcière et Denis Lessard. On voit que le ministre est prêt à tout pour montrer qu'il va prendre ses distances de son ancienne organisation. Il fait le calcul que d'imposer une loi spéciale servira ses intérêts politiques. Qu'il nous utilise pour faire un spin politique, ça me déçoit énormément, a déclaré la docteure Francker lors d'une conférence de presse entourée d'une vingtaine de membres du conseil d'administration de la FMSQ et de présidents d'associations. La FMSQ a rapporté que le ministre Barrette se présente seul à la table de négociation, sans équipe. Il nous a dit que c'est lui qui décide. Si le gouvernement veut régler, ça va prendre un peu plus de savoir-vivre et de savoir-être à la table, affirme la docteure Francker, qui invite le premier ministre à rappeler Gaëtan Barrette à l'ordre. L'éditorial de Pascal Breton ce matin dans la presse. L'urgence grise, c'est le titre. Quiconque a un parent âgé vit dans la crainte de le savoir malade, avec raison. Non seulement les personnes âgées sont surreprésentées dans les urgences du Québec, mais encore cette tendance va s'accentuer. Visiblement, le réseau de la santé peine à les prendre en charge. Il y a 10 ans, une civière sur 5 était occupée par une personne âgée de 75 ans et plus. Aujourd'hui, c'est 1 sur 4. Bientôt, ce sera 1 sur 3. Les patients âgés sont aussi ceux qui reviennent le plus fréquemment aux urgences, certains s'y présentant jusqu'à 4 fois ou plus au cours d'une même année. La mise en place de GMF, ces cliniques constituées de groupes de médecins, a permis de prendre en charge beaucoup de Québécois, mais ils ne semblent pas rejoindre les personnes âgées. Plusieurs d'entre elles ont tout de même un médecin de famille, mais peinent à le voir quand elles en ont besoin. En outre, les omnipraticiens qui effectuent des visites à domicile sont rares et les soins prodigués à la maison sont dispendieux. Les hôpitaux doivent donc trouver des façons plus humaines de s'adapter aux conditions des personnes âgées. La place d'un vieillard n'est certainement pas sur un corridor, surtout que cela accentue la confusion chez certains d'entre eux. Les solutions sont pourtant connues. Plusieurs recommandations ont été formulées au fil des ans, nous dit toujours Pascal Breton. Il faudrait favoriser l'interdisciplinarité, réviser le mode de rémunération des médecins, assurer la prise en charge des malades chroniques. Certaines provinces canadiennes sont passées à l'action, mais le Québec tarde à prendre le virage. Pendant qu'on tergiverse, ce sont nos vieillards qui en souffrent.
Sky smiling at me, nothing but blue skies do I see. Blue bird singing a song, nothing but blue birds from now on. Never saw the sun shining so bright, never saw things going so right. Noticing the days hurrying by, when you're in love, my, how they fly. Blue days, all of them gone, nothing but blue skies from now on. Never saw the sun shining so bright, never saw things going so right. Noticing the days hurrying by, when you're in love, my, how they fly. Blue days
is all of them gone? Nothing but blue skies from now on.
Suzy Arioli sur les ondes de Canal M et maintenant une chronique de Gilbert Lavoie qui, comme souvent, fait le tour de tous les journaux en région. Celle-ci s'appelle « Yves Bolduc doit quitter le cabinet ». J'ai appris au moins une chose importante dans l'entourage de Brian Mulroney à Ottawa, écrit Gilbert Lavoie. Lorsque vous devenez le sujet de controverse, lorsque c'est votre comportement qui alimente les critiques et qui fait les manchettes à répétition, « when you become the story », comme disent les anglophones, c'est le temps de partir. Il faut quitter pour le bien de votre gouvernement et pour permettre que le débat public porte sur les enjeux politiques au lieu de s'éterniser sur vous. C'est la question douloureuse que doit se poser le ministre Yves Bolduc. On l'a vu mardi et hier encore, les péquistes et les caquistes se sont rués sur son cas, exigeant sa démission ou le remboursement intégral des 215 000 $ encaissés pour avoir inscrit 1 500 patients lorsqu'il était simple député. Les partis d'opposition ne pourront pas faire les nouvelles sur cette affaire pendant des mois, mais les intervenants du milieu de l'éducation en feront leur chou gras à chaque fois que le gouvernement leur imposera des contraintes budgétaires, et ils ne seront pas les seuls. Sa crédibilité ministérielle est compromise. Rien ne permet d'affirmer que M. Bolduc ait négligé ses fonctions de député parce qu'il pratiquait la médecine, et c'est vrai qu'il était assidu aux travaux parlementaires. Mais ce n'est pas ça qui est en cause. C'est le fait qu'il ait touché une telle prime pour inscrire de nouveaux patients qu'il a ensuite abandonné pour redevenir ministre. L'émotion avec laquelle Yves Bolduc défend son comportement illustre bien à quel point cette controverse l'atteint. Cette émotion est telle qu'il s'enlise dans de nouvelles controverses en déclarant par exemple que si tous les médecins du Québec travaillaient autant que lui, il n'y aurait pas de problème d'accès dans les cliniques. Les collègues de M. Bolduc se sont portés à sa défense, c'est normal, dans un contexte partisan. Mais les arguments invoqués et la confiance que lui a réitéré Philippe Couillard n'enlèvent rien au malaise que tout cela a créé au sein de la députation libérale. M. Bolduc n'est plus l'homme de la situation à la tête d'un ministère aussi important que l'éducation. Il ne fait aucun doute que le Premier ministre l'enverrait dans un poste moins stratégique s'il y avait un remaniement ministériel en vue, mais ce n'est pas le cas. La décision qui s'impose ne peut donc venir que du ministre lui-même. L'exemple de Whistle, c'est terriblement pénible pour un politicien de s'engager dans une telle réflexion, mais il n'a pas le choix. L'ancien ministre libéral David Whistle a démissionné du cabinet de Jean Charest en 2009 pour clore la controverse causée par le fait qu'il était copropriétaire d'une entreprise qui avait des contrats du gouvernement. « J'avais écrit à l'époque, dit Gilbert Lavoie, qu'il devait choisir entre l'asphalte et sa limousine. » On ne publie pas ce genre de chronique à la légère, surtout à l'endroit de politiciens au demeurant fort sympathiques. Yves Bolduc se retrouve aujourd'hui dans une situation similaire à celle de M. Whistle. Ce sera moins humiliant s'il prend lui-même la décision qui s'impose, au lieu de se faire dire par son chef qu'il doit retourner sur les banquettes arrière.